vraiment récurrente dans le scoutisme, hein, c'est vraiment à la base de l'idéologie d'Alan Powell, c'est-à-dire l'idée de ne pas dissocier le corps et l'esprit. C'est la vieille idée que, à la limite, ce que vous êtes, en fait, y compris votre apparence, ce que vous dégagez, est indissociable de ce que vous êtes moralement. En fait. C'est-à-dire qu'une belle personne, même physiquement, est aussi une personne saine d'esprit. Donc du coup, un homme fort, c'est aussi quelqu'un qui peut assurer sa position sociale et qui va pouvoir, à qui on va pouvoir faire confiance, qui va pouvoir être un chef, qui va pouvoir diriger. Voilà, c'est l'idée qu'on ne peut pas seulement éduquer les enfants avec du savoir, mais aussi avec de la morale, avec des principes. Et aussi que cette éducation elle doit se faire de manière pratique, en faisant du sport, en ayant un contact spirituel, éventuellement religieux. Alors c'est l'éducation britannique, c'est même l'esprit des JO d'ailleurs à la base, mais ça se retrouve alors à la fois dans le scoutisme mais aussi dans certaines écoles privées, l'école des Roches par exemple, qui propose une éducation à la campagne, en internat, à l'écart du monde urbain et industriel, et dans un entre-soi. Voilà, l'idée aussi, c'est de se maintenir à l'écart des autres classes sociales pour rester dans un entre-soi, dans une sorte d'idéal de pureté. Là, on retrouve toute cette vieille rengaine, cette vieille rhétorique dont on a déjà parlé.
J'avais une question pour toi, mais d'abord je voudrais te féliciter parce que je trouve que tu as été très très courageux. Et j'en profite.
J'ai peut-être mourir, mais.
Oui, mais je pense effectivement que c'est ce risque-là que tu prends. Et surtout, du coup, je voulais souligner à quel point les gens qui se tardent de faire le coup de force contre les fascistes sont assez peu disponibles pour le genre de mission que tu as assumé. Mais je voudrais revenir sur un moment dans ton exposé, tu faisais lien avec la récupération du féminisme. Et moi, je me rappelle très bien un autocollant qui m'a fait vomir littéralement, qui était « Ni violé, ni voilé, touche pas ma sœur ». Je ne sais pas si ça fait partie des choses que tu as étudiées. Et alors, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de fondateur, de comprendre que la question des femmes... elle n'a existé qu'à partir du moment où il s'est agi de s'opposer à l'islamisme et où, en fait, le machisme est complètement repoussé sur la communauté musulmane, comme si les autres communautés n'avaient pas cette question-là. Et où, effectivement, en fait, il s'agit de libérer les femmes, mais pour leur attribuer une place bien particulière. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça ?
Non, j'ai beaucoup parlé. C'est bien d'écouter.
Je commence de manière générale sur la question des femmes et de la sexualité, parce que du coup c'est indissociable. Un des éléments qui constitue l'entre-soi militant des identitaires, c'est sont notamment des faits divers, en fait, c'est vraiment ce qui fait ressortir l'émotion, quoi. Et notamment, un truc qui les rend vraiment parano, c'est la peur de l'agression de la mère, de la sœur, de la petite amie. Là, dernièrement, du coup, la création des milices dans les métros, c'est vraiment cette idée-là, quoi, que c'est cette sorte de peur de l'autre, mais de l'agression. Mais du coup, alors il me semble que ça renvoie à l'idée que la femme, au singulier, doit être protégée, et du coup qu'on réalise ces dispositions virilistes en protégeant les femmes, quoi. On retrouve ces catégories d'opposition-là. Bon, ça c'est une chose. Ce que je peux noter aussi, c'est que toujours dans ces catégories d'opposition, de classement, vous avez d'un côté eux, les vrais hommes virils, qui sont concurrencés dans leur imaginaire par les musulmans, qui ferait autant d'enfants qu'eux, en fait. Donc du coup, il y a une sorte de concurrence comme ça sur cette reproduction biologique. Donc voilà, ils se sentent en quelque sorte défiés dans leur virilité. Quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et à l'inverse, il y a le bobo, l'homosexuel, le bourgeois qui serait un homme pas vraiment homme parce qu'il refuserait le combat, il refuserait la guerre. Voilà, c'est-à-dire, finalement, on retrouve une hiérarchisation entre l'homme viril et l'homme un peu moins viril, donc un peu féminin, qui se mélange dans son identité avec le femme, etc. Voilà. Il me semble qu'il y a quelque chose qu'on pourrait travailler comme ça avec la représentation du musulman.
Moi, j'irais même encore plus loin que ce que tu viens de dire, c'est que j'ai l'impression de retrouver un vocabulaire qui est le vocabulaire de la guerre, hein, où en fait un peuple est renvoyé, enfin je veux dire les hommes d'un peuple, pardon, sont renvoyés à leur incapacité à protéger le troupeau des femmes par un peuple plus viril, effectivement, c'est ce registre-là que j'entends.
Oui, complètement. Et juste pour finir, ça va avec l'idée que en fait il y aurait une décadence de la jeunesse européenne qui ne pourrait plus faire face à l'invasion extérieure.
Quand on divise les choses à l'extrême droite entre l'affirmation du virilisme et puis le rôle secondaire de la faible femme, on oublie quand même un petit détail qui existait déjà dans le nazisme, c'est la question de l'homosexualité à l'extrême droite. Et alors on sait comment ça s'est réglé avec la liquidation par Hitler des SA à un moment donné. Bon. Mais ça pose un problème aujourd'hui parce qu'on voit bien que Marine Le Pen, par exemple, a été très, comment dire, a semblé gênée et a dû prendre une position mi-chèvre, mi-chou, enfin, mi-favorable à l'homosexualité, mi-opposée, vu par exemple les intégristes catholiques qui sont dans son mouvement, etc. Enfin, c'est une question qui n'est pas simple hein, à l'extrême droite, ça. Donc, est-ce que là-dessus, on peut peut-être avoir un petit développement ?
Enfin, c'est très pertinent comme remarque. Je pense que on a bien senti au début de l'arrivée à l'Assemblée des discussions autour du mariage pour tous, une espèce de flottement dans la ligne internationale avec une différence assez forte entre Marine Le Pen qui considérait que c'était une forme de nuage de fumée lancé par le Parti Socialiste et qui voulait réaffirmer sa ligne de repompage de toute la ligne de critique du libéralisme en reprenant les économies d'attaque, etc., en menant une critique de Bruxelles, de la Commission européenne et de rester sur des thématiques économiques. Et puis, une ligne plus proche des milieux effectivement catholiques intégristes, et en partie incarnée par la Benjamine Marion, Marine Le Pen, pardon, qui, elle, a d'emblée été beaucoup plus en phase avec avec les mouvements de type Manif pour tous, hein, et qui a plutôt vu, senti venir la force potentielle dans la manifestation de rue. De ce type de mouvement-là, chose que Marine Le Pen n'a pas voulu entériner. Alors avec tous les débats qu'il y a eu sur les homosexuels qui seraient présents dans le conseil de direction du Front National, enfin, il y a eu tout un tas d'articles, y compris dans Minute, sur la question du lobby gay qui serait à l'intérieur du Front National. Donc il y a tout il y a une forme de ligne de tension là dans le Front National, mais qui renvoie une ligne de tension à plus largement, je pense, dans l'extrême droite, dont on a un peu parlé là, mais qui est assez présent dans les papiers, notamment le papier sur Soral dans le numéro, qui est avec quel type d'alliance on passe, quel type de ligne on a sur une série d'enjeux qui ne sont pas des enjeux liés à l'économie directement, mais qui sont. Et qui renvoie aussi à des questions d'alliance de classe, parce qu'une chose qui transparaît assez fortement du papier de Samuel, notamment, c'est que les identitaires. On peut aussi essayer de les situer socialement. C'est pas le skinhead, parce que le skinhead, c'est aussi plutôt le gros lourd. Et que eux, ils sont plutôt des enfants du monde de la boutique, des enfants de commerçants, etc., qui sont en chemise, qui se pensent comme respectables. Il faut être rasé. Le bobo, il est pas rasé. Moi, je suis rasé. Il y a aussi des divisions sociales à l'intérieur de ce monde de l'extrême droite. Et quand ils construisent des alliances, ils sont obligés de composer avec ça. Alors, bien sûr, ces alliances sociales, elles sont retraduites à travers des courants, des sous-fractions, etc. Mais, mais c'est une des limites aussi qui rencontre leur propre mouvement, comme tout mouvement de mobilisation politique qui doit composer avec ses divisions de classe, quoi, tout simplement.
Alors, avant de poser ma question, je voulais juste dire que dans le scoutisme, il existe quand même aussi différentes branches. Moi, j'ai été responsable scoutisme unioniste et c'est vraiment très moderne, égalitaire, coéducation, très cool. Alors, la question que je voulais poser est très naïve. Je trouve qu'il y avait été donc, là, pour le camp enrôlé sous un rôle en fait, factice. Une fois que vous avez quitté votre identité, on parlait tout à l'heure de mouvements sectaires qui, eux, ne laisseraient pas partir quelqu'un. Comme ça, vous avez parlé d'auteurs ouverts. Comment ils sont? Ils sont agressifs? Vous avez subi quelque chose à la suite?
Alors non. Donc pour resituer, ce qu'ils souhaitent avoir, c'est un noyau de militants motivés et qui soit vraiment qui soit là 2-3 fois par semaine, quoi. La fête qu'il y a dans les maisons d'identité tous les vendredis soirs où on mange un bout. D'aliments locaux, de recettes locales, une soirée de collage qu'il y a une fois par semaine, et puis autre chose. Donc, ils sont sur l'idée quand même d'un militantisme assez intensif, et ils veulent pas, enfin, en tout cas la doctrine, c'est de ne pas s'user à rattraper les militants qui ne sont pas suffisamment investis, quoi. C'est vraiment cette idée de garder une élite militante, en fait. Donc voilà, j'ai eu un peu de chance certainement par rapport à ça.
Embrassez tous, Dieu vous connaîtra bien. Plus je...
Oui, non, mais premier un peu, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé dans l'exposé de Samuel, c'est cette idée, mais que pas trop développée, bon, on peut le dire, l'idée de décloisonnement, brouiller les frontières, le fait que, bon, dans ces milieux identitaires, et effectivement, la Casa Pound dans l'Italie, c'est très intéressant aussi dans ce sens-là, ils essayaient de développer des tendances féministes, humanitaires, un travail sur les squats, ça me paraît extrêmement intéressant, l'idée de brouiller les frontières, parce qu'il y a ça aussi dans la galaxie sorale, très clairement. C'est-à-dire, bon, c'est pas un hasard si, bon, Abel Gould, on commençait, elle vient de la marche des beurs, Soral prétend qu'il vient de l'extrême gauche. Bon. Voilà, ça me paraît plus dangereux, plus intéressant, parce qu'au fond, le fascisme historique, le vrai fascisme, le fascisme italien au départ, ou le nazisme, bon, ils n'étaient pas fascistes au sens où nous on entend maintenant, c'est pas du mouvement conservateur, réactionnaire, etc. C'était une sorte de synthèse complexe de mouvements qui avaient des aspects révolutionnaires, rebelles, et de mouvements réactionnaires. Hein. C'est pas hasard si tu évoquais le site des féministes identitaires, Belle et Rebelle. Je pense qu'à Lyon, leur mouvement s'appelle Rébellion. C'est intéressant ce thème du rebelle. Hein. Donc là, on est très loin du conservatisme de la vieille noblesse autrefois qui veut garder ses châteaux. Ça me paraît très très différent. Il y a une volonté plébéienne, je crois, hein, que Dieudonné exprime aussi à sa manière. Hein. Le côté antisystème, le côté révolte, le côté contestataire. Et ça, c'est surtout le plus dangereux parce que ça peut aspirer. Capter des énergies positives des gens qui sont vraiment en révolte contre la société et qui se reconnaîtraient dans ce discours-là en raison de ce brouillage. Donc c'est une espèce de court-circuit qu'il s'agit de comprendre et d'essayer de déconstruire.
Même les logos, en fait, sont repris. Hein.
Ils reprennent les logos anards.
Les logos de l'Antifa, en fait, ils reprennent le drapeau noir, etc.
Rouge, noir.
Ils inversent juste un peu les couleurs, mais c'est vrai qu'ils reprennent vraiment le copier-coller.
On va prendre encore une ou deux questions et malheureusement, on va être obligé de conclure ce débat passionnant. Là, j'ai envie de poser une question un petit peu hors sujet, mais pas complètement. Tout à l'heure, dans la table ronde précédente, on a parlé un peu d'utopie, on a parlé des mouvements égalitaristes et progressistes qui parfois se divisent. On peut avoir 10 000 exemples. Moi, dans une autre vie, j'étais militant syndical. Il y a 100 ans, il y avait un ou deux syndicats, aujourd'hui il y en a un par branche. Et je pense qu'on peut décliner un peu cette division dans beaucoup de mouvements, y compris dans le mouvement antiraciste ou pour les mouvements LGBT. Est-ce que les sociologues, est-ce que les scientifiques s'intéressent aux forces progressistes? Est-ce qu'il y a des études comparables à celles que vous avez faites? Est-ce qu'ils sont sur le déclin? Est-ce qu'ils arrivent à se remobiliser? Quel est l'état des lieux? Est-ce qu'on peut encore, est-ce qu'il y a des gens qui croient encore à une utopie?
Non, mais là-dessus, oui, il y a quand même beaucoup de travaux en sociologie de l'autre côté, on va dire, qui portent sur des groupes comme ça. On pourrait donner comme exemple le dernier numéro de la revue Savoir Agir, qui s'intitule Syndicalisme en lutte, et qui essaie de faire une forme notamment de Kaléidoscope, des mouvements syndicaux qui sont encore dans une revendication de lutte et pas simplement une forme d'appareil syndical routinisé ou qui serait que dans la gestion paritaire. Et donc là, il y a notamment un papier très intéressant sur le LKP et sur le JTG en Guadeloupe, où on voit comment des mouvements syndicaux restent très enracinés dans la culture de grève générale, etc. Donc il y a quand même pas mal de travaux sociologiques qui portent sur ces questions-là. Et donc voilà, un exemple, le dernier numéro de la revue Savoir Agir est entièrement là-dessus.
Une dernière question ?
Je voulais dire d'abord pour les liens entre, enfin, pour la récupération des idées d'extrême gauche par l'extrême droite, je pense que c'est pas nouveau. L'extrême gauche, souvent, a produit.
On vient de
L'extrême droite, non. Alors, l'extrême droite qui récupère les idées d'extrême gauche, je trouve que c'est pas nouveau, quoi. C'est récurrent. L'extrême gauche, souvent, produit des analyses que moi je trouve vachement intéressantes sur le système. Je pense que l'extrême droite reprend les mêmes postulats pour proposer des solutions différentes. Donc une analyse assez proche, avec toujours un méchant, un grand méchant, qui est l'arabe, le gay, le juif, voilà. Et puis qui propose ensuite la solution du retour à la patrie, à la tradition, aux valeurs, au patriarcat. Donc voilà, je pense que c'est pas nouveau. Et ce que je voulais demander, c'était... à Samuel, quels sont leurs nouveaux démons à l'extrême droite, aux identitaires ? Qu'est-ce qui... Si en ce moment, c'est quoi à la mode ? C'est les juifs, les homos, c'est quoi leur mode en ce moment ?
Alors, effectivement, les identitaires sont plutôt axés sur une islamophobie, sur un mouvement anti-islam. Qui masque, moi ce qui me semble important, qui masque aussi des rapports de classe, une sorte de mépris de classe en fait, parce que le musulman est toujours représenté comme une racaille en fait, c'est le mot qu'ils utilisent, une racaille, c'est-à-dire, voilà, on voit bien ce qui se cache derrière, quoi. Quelqu'un qui habite en banlieue, c'est jamais le musulman qui travaille... qui est député ou qui est voilà et je dirais même que c'est en cela aussi que ils peuvent produire un discours bien pensant, quoi. Et là il me semble que c'est quand même très différent aussi en cela et quelque part beaucoup plus facile en fait que les discours de gauche qui doivent déconstruire qui doivent rompre comme ça avec un sens commun. C'est plutôt l'inverse. Ce qui marche, c'est de surfer avec le sens commun. Alors là-dessus, c'est ce que fait, il me semble, Soral aussi. Soral qui, si vous voulez, quand vous. Alors c'est ce que vous avez dit, quoi. Quand vous brouillez les frontières, et ça, c'est vraiment central dans le numéro, quoi. Dans tous les papiers, c'est vraiment ça. Quand vous parvenez, vous essayez de brouiller les frontières politiques. Et bien derrière, c'est plus simple vous pouvez récupérer en fait une sorte de sens commun, vous pouvez vous représenter comme quelqu'un d'anti-système, quelqu'un de contre le système, vous vous retrouvez ostracisé par le champ médiatique, et ça permet de faire circuler des discours du type alors Sylvain l'a dit, le premier parti ouvrier c'est le FN, alors que il vote en premier lieu, il ne vote pas, quoi, justement. Le papier qui est dans le numéro sur Soral montre bien comment en fait ce sont les transformations du champ médiatique, avec l'arrivée par exemple des talk shows qui vont en fait faire s'écrouler l'espace public pour faire parler l'intime, permettre... Alain Soral en fait a monté comme ça, hein, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais il est monté par les talk shows en disant des... en surfant justement sur un sens commun contre le genre, en faisant étalage de son virilisme, en passant chez Ardisson, en passant à C'est mon choix. C'est comme ça en fait qu'il va acquérir une petite notoriété, qui va essayer de réinvestir dans le champ politique et notamment au FN, et qui va pas très bien marcher en fait, pour se retrouver en gros, là je le fais très vite, hein, j'en suis désolé, mais le papier explique ça en détail, où il se retrouve en fait sur internet avec sa petite entreprise d'égalité et réconciliation, et où il continue à faire l'aller-retour avec en vendant ses connaissances du showbiz et du champ médiatique, et c'est comme ça en fait qu'il parvient comme ça à rester un peu dans la vague, quoi.
Oui, juste rebondir sur ce qui avait été dit très justement sur le voyage de frontières, aussi sur l'écologie, c'est que il y a tout un discours en fait barésien sur le terroir ancestral, la qualité des bons produits de France, sur lequel essaie de surfer Sanvis Terrae, leur association qui vend du vin bio en ligne, mais qui commence à avoir des vrais effets dans le milieu des AMAP, et notamment dans les milieux qui étaient parmi les précurseurs des AMAP bio, et tout un... Et ce qui est très étonnant, c'est que le mouvement bio, qui quand même capte une forme de souci de qualité de vie, etc., d'une partie de gens qui s'intéressent à la question de la nature, finalement peut se retrouver juxtaposé ou proche d'un discours de type soralien, parce que, et là on rejoint l'intervention de Maya, il y a toute une forme d'aristocratisme derrière ça. C'est-à-dire, Soral est tout à fait fier de rappeler ses origines aristocrates, de dire qu'il vit à la campagne, qu'il faut fuir les villes, de rappeler qu'il a son permis de chasse, qu'il sait chasser, etc. Il y a une forme de connexion possible qui n'est pas simplement, en mon sens, un brouillage de frontières, mais qui peut être une vraie convergence autour de la question des produits bio, du retour à la terre, etc., qui a deux facettes historiquement, toujours ce retour à la terre, qui peut être une fuite vis-à-vis de l'industrialisation, du monde urbain, etc., qui porte des valeurs progressives, mais qui a aussi un autre revers possible qui est une forme de retour à des structures sociales très hiérarchisées, où on est dans des fiefs locaux, etc. Donc c'est cette double facette-là, ils essayent d'en jouer très fortement, mais elle a une dynamique historique assez, assez forte quand même.
Ça ressemble à des nazis écologistes dans les années 30. Mmh. Ouais. Mmh. Dans les années 30,
c'était très... Hitler, je ne pense pas des idées, des apparences aussi végétariennes.
Mais par contre, pour continuer là-dessus, et quand ces mouvements conservateurs arrivent à se connecter à des tendances de fond comme ça, ils peuvent vraiment dépasser ou bousculer des clivages classiques du champ politique, au moins localement ou par bribes, et notamment, je suis d'accord sur l'idée qu'ils avaient cette similitude entre bloc identitaire et Soral, mais la vraie différence entre bloc identitaire et Soral, c'est sur la question de l'islam, parce que pour le coup, là, il y a vraiment une vraie ligne de clivage, quoi. Soral différencie complètement dans la question de l'islam par rapport aux identitaires, quoi. Il n'assimile pas du tout au racaille, au contraire, il essaie de capter une forme d'ascétisme religieux en le rendant vertueux et en le mettant à égalité avec une forme de spiritualité chrétienne en produisant une forme d'antisémitisme à partir de là. Enfin, c'est une autre forme d'exploitation d'une tendance sociale possible, quoi.
Avant, dans le temps, il était, quand on lui demandait de parler de conflit israélo-palestinien, il disait « moi ça me va tant qu'ils se tuent entre eux ». Et il a été apparemment mandaté par le Front National pour faire de la pub pour le FN en banlieue. Et c'est de là qu'est venu, je pense, son... Avant, il supportait pas les Arabes. Je crois que c'est sa sœur qui l'avait dit dans un documentaire dessus. Et du coup, il a été envoyé par le FN pour faire de la pub dans les banlieues, pour ramener les jeunes de cité qui votent pas. Et du coup, je pense que c'est dans cette même ligne qu'il s'est associé à Dieudonné et tout.